Voilà, donc il est 20h et on est donc en direct sur Pinode. Il y a une moto qui passe. Alors, certaines auditeurs, auditrices connaissent déjà ce son. C'est la cour de la Générale dans laquelle on officie le MIG ce soir. Et je vais passer tout de suite le micro à Julien. Voilà, qui va un petit peu nous contextualiser cette rencontre.
Bonsoir, je vais contextualiser cette rencontre. Donc, qu'est-ce que le MIG, qu'est-ce que la Générale? Certains et certaines d'entre vous ne le savent peut-être pas. La Générale est une association vieille qui est constituée d'un collectif de gens bénévoles, volontaires et courageux qui gèrent différents bâtiments à travers les années. Aujourd'hui, la Générale gère un bâtiment qui se trouve dans le 14e arrondissement où nous sommes en ce moment pour cette émission de radio. C'est un ancien conservatoire dans lequel nous accueillons des résidences artistiques, politiques, sociales. On accueille des collectifs, par exemple des chorales, des AMAP, enfin surtout une AMAP, des chercheurs, des lecteurs. Voilà, c'est un jeu qui est, c'est un lieu qui est géré par des bénévoles et puis on réfléchit ensemble à de meilleures façons de s'organiser. On accueille aussi un énorme collectif de radio qui s'appelle Pinode. Donc là, voilà, je dis énorme parce que c'est un collectif qui comporte beaucoup de membres. Donc c'est une radio qui est diffusée sur Internet et aussi via les ondes hertziennes. Et l'émission de ce soir est retransmise en direct sur pinode.org. À la Générale ont lieu les MIG, les mardis informels de la Générale, qui ont été créé pendant le deuxième confinement grâce à la cour de patio où on se trouve actuellement, qui nous permettait de nous réunir dans des conditions sanitaires acceptables. Et nous avons commencé par nous réunir autour d'une revue qui s'appelle Pétrole Progrès, qu'on a arpenté en groupe. Et puis petit à petit, ça a donné lieu à des interventions, des conférences. Et puis c'est devenu un rendez-vous régulier de conférences. On choisit des intervenantes et des intervenants selon un faisceau de thématiques que vous pourrez retrouver à l'URL que vous donnera Kevin tout à l'heure. Et on choisit nos intervenantes et nos intervenants avec soin. Et ce soir, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter Clara Rigaud, qu'on a rencontrée en ces lieux pendant un événement qui était dédié à Nicolas Nova, puis pendant un MIG, on a discuté. Elle voulait s'installer sur un coin de table à la Générale pour réfléchir. On lui a plutôt proposé de faire une résidence officielle, pendant laquelle elle a bouclé l'article dont elle va vous parler ce soir, entre autres. Et je lui laisse la parole.
Bonjour. Bonjour, on m'entend là? Ouais, ok. Merci. Et je suis très contente pouvoir vous parler de ce travail, parce que effectivement je suis venue à la Générale, c'était pour l'événement de Yvan Murit qui nous montrait son nouveau super software, et j'ai vu une table et moi j'avais prévu de passer la plupart des prochaines semaines 24 heures sur 24 à écrire un article que je voulais à tout prix soumettre à une conférence, et quand j'ai demandé d'avoir un petit bout de table pour avoir un petit espace, on m'a proposé cette résidence. Donc merci beaucoup, parce que ça a porté ses fruits et l'article a été accepté. J'ai eu la nouvelle vendredi dernier. Et je suis contente. Et donc là, ouais, je vais pouvoir vous en parler un petit peu en avant-première, d'une manière informelle. Si vous voulez une version formelle, ça sera... le 26 et le 27 juin, c'est le jour où le workshop Computing Within Limits va avoir lieu. C'est une conférence qui est internationale, un workshop international qui a lieu en ligne et qui est ouvert à tous, gratuit. Donc vous pouvez vous connecter sur Internet. Il y a aussi des événements qui sont organisés un peu partout dans le monde sur la base du volontariat. Et en l'occurrence, il y en a un à Paris qui est organisé par l'association Limite Numérique. Et ça aura lieu dans le 5e arrondissement. Vous aurez les informations si vous les voulez. Et donc à ce moment-là, il y aura une présentation un peu sur le même topic, mais formelle. Là, on va être informel. Comme ça me fait un petit crash test. Et donc voilà, moi je me présente, je suis Clara Rigaud, je suis docteur en interaction humain-machine. Et en ce moment, je travaille sur la conception d'outils. Bon, je travaille depuis un moment sur la conception d'outils. Et là, en particulier sur la conception d'outils qui vont permettre de favoriser le réemploi de technologies, comme par exemple le smartphone. Et je m'intéresse en particulier au cas du smartphone. Je peux vous en parler un petit peu. Le cas du smartphone, c'est intéressant de le réemployer parce que c'est un des dispositifs qui est le plus victime, le plus potentiel à devenir un déchet. On estime environ 8%, si je me souviens bien, des déchets, des e-waste, donc des déchets électroniques produits. Donc ces 8% sont des smartphones ou des outils de communication. Et la raison principale à ça, c'est l'obsolescence de ces dispositifs. L'obsolescence qui est liée d'abord à des limitations en termes de mémoire de stockage, un logiciel qui va vieillir, qui va plus être adapté ou plus compatible avec d'autres écosystèmes techniques. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que le smartphone est victime d'un renouvellement fréquent. On estime en Europe de l'Est que c'est un téléphone, un smartphone est gardé par son premier propriétaire 3 ans et demi. Donc c'est très faible et on imagine ce que deviennent ces téléphones une fois qu'ils sont plus utilisés. Donc cette obsolescence aussi est liée à la technologie qui évolue rapidement et des logiciels qui vont être de plus en plus gourmands en termes de ressources et de puissance de calcul. Et c'est aussi une obsolescence qui va être logicielle étant donné que les logiciels vont être maintenus par les constructeurs seulement quelques années. Donc d'une manière générale, les applications qu'on va essayer de télécharger sur des téléphones vieux vont être gourmands en ressources et ne vont plus fonctionner sur des appareils qui pourtant, en termes de matériel, sont encore très fonctionnels. Et donc voilà, on a plein de téléphones qui encore marchent mais ne peuvent plus être utilisés pour leur usage principal. Donc voilà. Une des premières choses qu'on peut faire avec un téléphone qui est obsolète, c'est de le réintégrer dans les circuits de recyclage ou de seconde main. Le problème avec ça, c'est que souvent, pour ce qui est de la seconde main, c'est que la seconde main va souvent servir pour des smartphones qui sont plus ou moins récents. Et pour ce qui est du recyclage, en fait, il y a beaucoup d'effets rebonds qui font que c'est pas forcément la meilleure pratique à faire, étant donné que les téléphones vont encore voyager, vont peut-être être traités pour récupérer leurs métaux dans des circuits pas forcément adaptés en termes de ah merde, pardon. De salubrité, ouais, c'est le mot. Comme je l'ai écrit en anglais, j'ai du mal à trouver les traductions. Et donc voilà, c'est pas forcément le choix essentiel. Et en plus, la plupart des téléphones qui sont vieillissants ont tendance à ne pas être réintégrés du tout dans les circuits de recyclage et ont plutôt tendance à dormir dans les tiroirs et à juste ne plus être utilisés et vieillir sans être valorisés. Donc là, une des stratégies pour ça, c'est de voir comment on peut étendre la durée de vie de ces téléphones. Il y a plusieurs stratégies. Par exemple, en essayant de télécharger des OS alternatifs, donc des systèmes d'exploitation alternatifs qui vont être moins gourmands en ressources et qui vont permettre d'utiliser des téléphones un peu plus vieux, mais plus longtemps pour appeler, pour prendre des photos. On n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de complexité dans le système d'exploitation. Il y a beaucoup de systèmes d'exploitation libres comme PostMarketOS qui existent, par exemple, qui sont... qui sont maintenus et qui permettent de prolonger la durée de vie des applications. Il y a aussi des alternatives diverses qui sont documentées, qui sont très intéressantes. Aussi, une autre alternative, une autre stratégie va être de dédier l'appareil à un usage particulier. Par exemple, dans le cas de la pédagogie, on peut se servir d'un téléphone pour faire marcher une seule application. Et à ce moment-là, on va avoir une flotte de téléphones qui va servir à une application donnée. Il n'a pas besoin d'être très, très performant, il fait juste ce qu'il a à faire. Le problème, c'est que souvent, on récupère des téléphones qui sont très hétérogènes et qui demandent beaucoup d'efforts et qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place dans un contexte pédagogique. Et d'autant plus qu'il y a certains constructeurs, comme par exemple Apple, qui rendent très difficile l'installation, voire impossible, d'OS alternatif et donc d'applications tierces. Donc voilà pour la base de qu'est-ce qu'on peut faire avec des téléphones. Le réemploi de techniques, enfin les techniques de réemploi sont très très populaires dans le monde du do it yourself. Par exemple, les notions de zombie media vous parlent peut-être, qu'il s'agit de réemployer par des techniques comme par exemple le circuit bending, d'aller chercher des vieilles technologies et de voir comment on peut les revaloriser dans un contexte artistique ou performatif. Et d'essayer de valoriser par ça les anciennes technologies et de comprendre dans quel contexte elles s'intégraient, comment on peut continuer à les utiliser, soit dans un contexte performatif, soit artistique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je passe à la radio, c'est un peu stressant quand même. Oui, je peux donner l'exemple de Recyclism, Benjamin Gollon qui s'intéresse au cas du Minitel, par exemple, qui est qui fait quasiment plus de 10 ou 20 ans qu'il est un des représentants des zombies médias. Il y a aussi le mouvement du permacomputing qui est de plus en plus présent, bourgeonnant, mais qui en fait pose des questions qui ne sont pas tout à fait récente, mais qui, dans le contexte actuel des limites planétaires, retrouve tout son sens de comment on peut faire des nouvelles, comment on peut valoriser des objets, des dispositifs électroniques qui vont être à disposition localement. Et donc voilà, il y a plein d'exemples. Il y a aussi l'exemple de la DemoSen qui, depuis les années 80, construit des logiciels avec la contrainte de la machine, donc qui va chercher à optimiser son code pour qu'il tienne sur quelques kilo-octets. Encore aujourd'hui, ils sont très actifs. Ils se regroupent dans des démos parties où on va montrer comment on a optimisé notre visuel pour tel ou tel dispositif 8-bit ou des shaders, beaucoup de shaders. Le problème avec ces pratiques, c'est que le cas du smartphone est assez peu représenté dans ces pratiques-là. Et il y a peut-être... ce serait intéressant de faire un outil pour permettre aux smartphones d'être plus facilement réutilisables, de par l'hétérogénéité dont je parlais tout à l'heure, mais aussi qui permettrait de faciliter l'appropriation à des publics du monde du faire soi-même et artistique pour qu'ils puissent intégrer les smartphones dans leur processus de réemploi ou pour fabriquer des prototypes de telle ou telle chose. Et étant donné qu'en plus, les smartphones se sont complexifiés de plus en plus et que ce n'est pas forcément à la portée de tous de pouvoir faire quelque chose avec son smartphone obsolète. Donc en gros, il y a des initiatives et des contextes dans lesquels le réemploi de smartphones obsolètes peut être exploré, mais la complexité et l'hétérogénéité de ces appareils requièrent des connaissances relativement techniques. Et c'est ce qui peut empêcher certains, en tout cas, agir comme une barrière pour leur réemploi. Et c'est là que j'arrive. moi, je me suis intéressée à la manière dont on pourrait rendre le réemploi de smartphones plus accessibles. Et en fait, avec ce projet qui s'appelle Zombitron, que j'ai initié l'année dernière quand je travaillais pour une agence web en tant que développeuse-chercheuse, le principe est de se dire, étant donné qu'un smartphone, quelle que soit sa date de sortie, quel que soit son âge, dispose d'un navigateur, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le navigateur pour permettre de créer des interfaces et d'accéder aux différents capteurs qu'il va y avoir dans le téléphone et pouvoir construire des applications avec ça, et peut-être une boîte à outils qui permettra de rendre la conception d'interface plus facile grâce à cet outil. Et donc c'est tout l'objet du système Zombitron, qui consiste en fait à quelque chose de pas très novateur. C'est juste de générer un réseau local à partir, donc on va faire un petit réseau local à partir d'un des téléphones, qui va pouvoir générer des pages web à tous les téléphones qui sont connectés. Et ces pages web vont pouvoir afficher des éléments interactifs qui vont pouvoir accéder à des capteurs, comme les capteurs inertiels, le gyroscope, l'accéléromètre, la caméra, enfin tout ce que le navigateur peut faire, a priori, le téléphone pourra le faire. Et donc en combinant des technologies qui sont plus ou moins performantes et plus ou moins vieilles de différents OS, donc des Apple, des iOS, là j'ai pour l'exemple des Android version 2, des choses qui sont sorties en 2012. Essayer de voir comment on peut installer et faire marcher des choses, des interfaces là-dessus. Donc c'est tout le principe de Zombitron. Il y a une unité qui va être en charge d'exécuter un serveur. Donc pour ça, il faut que le système est basé sur un système qui s'appelle Node.js, qui permet de faire marcher un code qui s'appelle du JavaScript sur une machine en local, et qui va permettre de fabriquer un serveur qui va diffuser ses pages sur un réseau local, comme un petit internet en gros. Et donc, il faut un téléphone qui soit capable d'exécuter un serveur Node.js, un téléphone qui soit capable de partager son réseau Wi-Fi pour qu'il y ait un réseau local, mais ce n'est pas forcément obligatoire. On peut très bien utiliser un réseau local généré depuis son ordinateur, ou avoir d'autres machines, dès lors qu'elles peuvent être connectées à un serveur, peuvent afficher des pages web. Et un ou plusieurs clients qui vont, eux, être juste responsables de l'affichage d'une page web, donc en HTML, en JavaScript. Donc c'est le principe de base à partir duquel, l'année dernière, j'ai participé à la réalisation de deux prototypes qui s'appellent Zombitronica et Zombicord, qui ont été faits à partir de téléphones plus ou moins récents. Le Zombitronica a été fait à partir de 4 téléphones et d'une enceinte récupérée de chez Emmaüs. Et il servait de boîte à rythme, plus ou moins. Et le Zombicord était une réplique de l'Omnicord, pour ceux qui connaissent, qui est un instrument qui permet de jouer des accords avec une harpe. On parle de l'auto-harpe aussi, qui est un instrument similaire. Donc on voit pas mal chez certains chanteurs en ce moment. Bref. Et le Zombicord était intéressant parce qu'il était fait avec un iPhone 6 et un Android 5. Et donc j'ai été exposée à des premiers blocages, parce que pour exécuter Node.js sur Android 5, j'avais besoin, en fait, pour exécuter Node.js de toute manière, j'avais besoin d'une application qui émule un terminal sur les appareils. Et sur Android 5, cette application était... plus maintenu, ce qui veut dire que le code n'était plus mis à jour. Ça veut dire que les paquets et les librairies accessibles, dont Node.js, étaient accessibles, mais seulement dans une version très ancienne. Et donc il a fallu adapter un peu, mais c'était déjà, j'avais réussi à ce moment-là. Et donc à partir de ce travail, et c'est l'objet de ce qu'on trouve dans mon article, c'est que j'ai essayé de partir d'un point... d'une manière plus large, j'ai considéré une variété, j'ai voulu considérer une variété de téléphones complètement hétérogènes, donc de différentes dates, de différents OS, et j'ai essayé de voir si je pouvais décliner ce principe avec ça. Sachant que les deux premiers prototypes utilisaient juste l'écran tactile, il n'y avait pas d'accès au capteur, c'était vraiment une preuve de concept. Donc j'ai agi de manière un peu plus méthodique. J'ai pris 14 téléphones différents. Il y avait dans ma liste un iPhone 5, un Galaxy S3, des téléphones qui vont de 2012 à 2020. et qui avaient été rendus obsolètes par différentes raisons, soit parce qu'ils étaient trop vieux, soit parce qu'ils étaient cassés, il manquait un truc, ou soit parce que les personnes s'en étaient séparées, je ne sais pas trop pour quelle raison. À ce moment-là, je ne savais pas trop pour quelle raison, parce que j'ai récupéré des téléphones comme ça qui me venaient ou que je trouvais sur le marché, dans les stands de gens qui vendent des fils et des trucs. Et donc je suis partie avec cette base de 14 téléphones et j'essayais de voir comment je pouvais mettre en place ça tout en documentant à chaque fois les barrières que j'allais rencontrer vis-à-vis de, soit du serveur, soit du partage de connexion entre les appareils, soit du point de vue de l'affichage du navigateur qui est propre aussi à la version du téléphone. Donc le navigateur va pouvoir faire plus ou moins de choses selon sa version également. Et donc, en parallèle de ce travail, j'ai documenté toutes les choses et à chaque fois, j'ai construit. Et en même temps, j'ai alimenté une base de code qui fonctionnait sur tous les appareils. Donc la première étape avant d'alimenter cette base de code, c'était déjà d'allumer les téléphones. Déjà, il y en a plusieurs qui ont été éliminés de mon lot parce qu'ils étaient briqués ou alors les personnes ne m'avaient pas donné leur mot de passe, ne les avaient pas débloqués. Et à ce moment-là, on peut très vite se retrouver avec un téléphone qui est inutilisable. Donc si vous récupérez des téléphones, pensez bien à les effacer complètement parce que plus le téléphone est récent, plus des failles de sécurité ont été mises à jour et donc moins possible il est de détourner cette protection. Et donc de manière itérative, j'ai alimenté cette base de code qui est disponible sur GitHub et à partir desquelles j'ai implémenté les événements tactiles, j'ai fait un système qui permet de facilement générer des interfaces comme des sliders qui vont automatiquement communiquer avec l'ensemble du réseau les événements de capteurs, donc d'éléments UI ou d'éléments de capteurs. Donc à ce moment-là, j'avais juste implémenté le tactile et les gyroscopes, ce qui était déjà, j'ai appris beaucoup de choses parce que plus, les appareils sont récents, vont nécessiter un serveur qui va être sécurisé, donc qui va faire que moi, dans mon code, j'ai dû adapter ce cas particulier pour que ça génère un réseau sécurisé. De la même manière, il y a les iOS avant iOS 13, pour pouvoir faire des WebSockets sécurisés, il faut générer un certificat. Donc j'ai développé des petits outils comme ça qui permettent d'automatiquement générer un certificat. Voilà, j'ai alimenté cette boîte à outils comme ça au fur et à mesure pour arriver à, c'est pas du tout fini, à quelque chose qui allait fonctionner sur tous les appareils. Donc ça c'était côté serveur, il y avait aussi d'autres exemples côté client, côté du navigateur avec des versions de JavaScript qui à partir de 2015 il y a une mise à jour majeure du langage JavaScript qui est passé de ES5 à ES6, bref c'est des détails, mais en gros qui rendent incompatibles beaucoup de choses. Et donc j'ai aussi fait en sorte que la librairie puisse fonctionner avec détecter la compatibilité ES6. Voilà, c'est une espèce de début de librairie qui a été alimentée au fur et à mesure de mes tests. Ouais. Alors, c'est http://github.com/zombitron/zombitron-exemple. Sans E. Voilà. Et voilà, donc ça c'est du work in progress. Et en fait, pendant que je faisais ça, j'ai aussi beaucoup discuté avec deux camarades musiciens, parce qu'on est sur des exemples d'instruments de musique. Le but de ce système, c'est pas seulement de pouvoir faire des instruments de musique, mais les instruments de musique s'y prêtent bien parce que on a à la fois des problématiques d'interactivité, on va pouvoir créer des composants visuels, on va pouvoir utiliser des capteurs différents pour générer du son, et aussi les performances, parce que là on utilise une librairie, là pour le coup j'utilise une librairie qui s'appelle Tone.js, qui est une librairie web audio qui permet de générer du son sur le navigateur. Et ça pareil, ça demande beaucoup de ressources qui vont être disponibles ou moins disponibles selon les différents appareils. Donc ça, de la même manière, j'ai essayé d'évaluer comment je pouvais faire ça. Et donc j'ai discuté avec deux camarades musiciens pour voir si comment cet outil, s'il est fini, pourrait s'intégrer dans leur pratique, est-ce qu'ils pourraient s'en servir. Et on a eu des discussions hyper riches qui sont retranscrites dans cet article avec Jean Turner et Suis-je fou ? Les deux ont une approche, une question ? les deux ont une approche assez différente, ce qui était hyper intéressant parce que quand j'ai présenté l'outil à Jean Turner, il a tout de suite vu le potentiel interactif qu'il pourrait avoir avec les gyroscopes et il a commencé à construire une espèce de plateforme en Lego et avec plein de manières de pivoter les différents smartphones avec des socles pour pouvoir les utiliser. Et lui, sa pratique, c'est plutôt de l'interfacer avec son logiciel Ableton, ce qui est tout à fait possible. Dès lors qu'on a Node.js, on peut aussi communiquer avec d'autres protocoles. Là, j'utilise du WebSocket pour communiquer entre les téléphones, mais on peut aussi envoyer des messages en OSC, Open Sound Control, qui est compris par plein de logiciels différents, que ce soit en musique ou en vidging. Donc voilà, c'était une première illustration de comment on pourrait l'utiliser. Donc lui, ça serait plus en complément de son ordinateur. Et Suishfu, qui lui a vu tout de suite comment on pourrait connecter et distribuer en fait différents instruments entre plusieurs personnes avec un chef d'orchestre et des personnes qui allaient générer leur son de chacun de leur côté. Et vraiment le côté distribué de ça, tout en pensant particulièrement aux questions de performance. Et lui travaille énormément avec Max MSP. Et a proposé donc une idée de prototype qui consiste à utiliser la synthèse granulaire, qui est une manière de générer du son qui demande moins de performance que générer des effets. C'est pas mon métier, j'y connais rien, mais en gros qui est un peu plus optimisé en performance. Et Max MSP a sorti il n'y a pas très longtemps une librairie qui permet de faire d'exporter des patchs Max MSP en WebAssembly, ce qui permet de les exécuter sur le navigateur. Donc voilà, ce serait hyper intéressant de continuer ce travail. Et j'en parle un peu plus profondément dans l'article. Et là, je sors de l'article parce que tout le travail que j'ai fait, je n'avais pas vraiment encore eu le temps de faire un prototype. Et donc après l'écriture de l'article, j'ai commencé à faire mon prototype pour tester ma librairie. Parce que sinon, ce n'est pas très intéressant. Et donc là, je peux vous montrer le prototype que j'ai fait. Je l'ai fait avec un téléphone de la marque Mosh. Qui fonctionne sous Android 2, Gingerbread. C'est une marque, c'est un modèle Alcatel qui a été renommé Mosh. C'est un modèle qui vient du Portugal. Et il y a un deuxième appareil qui est un iPhone 5 et un troisième appareil qui est un Alcatel, je ne sais pas quoi, mais qui est un peu plus récent, mais il a l'écran tout cassé. Donc voilà, c'est eux avec qui j'ai décidé de tester ma librairie. Et j'ai fait une application, donc encore un instrument de musique, en essayant les différents capteurs. Donc il y a le premier, le Mosh. Lui, il affiche différents sliders qui vont permettre de contrôler quatre instruments différents. Et le deuxième, l'iPhone, affiche un séquenceur. Et c'est lui aussi qui va charger l'application qui génère la musique. Et en fait, je l'ai trouvé très performant parce que au fur et à mesure où j'ajoutais des filtres, des effets sur les sons, je voyais qu'il grésillait un peu, qu'il avait un peu de mal, mais j'en suis quand même pas trop mécontente. Et le Mosh partage aussi sa connexion auprès des deux autres. Et le troisième permet de jouer des accords. Et je vais vous faire une petite démonstration en direct. Si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher et je ferai une vidéo que je mettrai pour les gens qui écoutent à la radio. Là, je mets mon casque pour pouvoir écouter ce que je raconte et ce que je joue pour pouvoir vous casser les oreilles à la radio. Alors, donc là, c'est celui qui fait, c'est le séquenceur. Donc là, il y a une petite boucle que j'ai. J'ai activé ici, il y a un petit métronome. J'ai voulu tester aussi, est-ce que si je peux envoyer des messages, est-ce que je peux aussi en recevoir en temps plus ou moins réel. Et le métronome, la cadence, plutôt bien. Donc, je suis contente. J'avais oublié de dire que c'est l'Alcatel qui exécute Node.js ici. Donc tout est en circuit fermé. Là, l'ordinateur, je peux le fermer, on s'en fout, il sert à rien. Et là, je peux du coup créer un petit beat. Là, j'ai un volume, un slider qui me permet de contrôler le volume sur le Mosh. Lui, c'est un effet. En fait, c'est que quand j'ai fermé mon ordi, j'avais oublié que ma carte son était branchée à mon ordi. Désolée. J'ai voulu me la péter. Non, en fait, il est là. Il a besoin de il fait de l'électricité, quoi. Waouh, bravo. Bon, je recommence. Voilà, vous m'entendiez même plus ma voix. Alors, je recommence. Voilà, je relance ma boucle. Normalement, on entend. Voilà. Donc là, voilà, il y a un petit beat, et là, je peux activer les différentes séquences. Donc c'est plutôt réactif. J'étais au fur et à mesure où je rajoutais des choses, j'étais moi-même surprise. C'était un travail, j'avais pas franchement eu l'opportunité d'optimiser les applications sur les anciens que j'avais faits. Et là, ouais, ça marche bien. Donc là, le premier instrument, je peux aussi en rajouter un deuxième, par exemple lui. Troisième, voilà. J'ai un filtre passe-bande sur mes quatre sliders. Tous les effets peuvent être ajoutés indépendamment aux instruments. Donc ça fait déjà pas mal de demandes en termes de puissance de calcul. Je peux le mettre ici par exemple. Et je peux augmenter les BPM pour faire danser dans vos voitures à Mulhouse. Voilà, après on peut aussi jouer un petit peu avec les effets. Donc là j'ai un feedback avec durée du feedback, donc feedback c'est que ça va rejouer le son plein de fois.
Wow.
Calmos. C'est un peu dangereux comme effet, mais on peut faire des choses un peu rigolotes. Voilà, hop, comme ça par exemple. Et un passe-bande. On l'entend le passe-bande? Ça, c'est mon petit séquenceur qui est fait. Donc là, pour l'instant, c'est juste l'iPhone et le Moog qui jouent. Je peux mettre sur pause la loupe et vous montrer l'autre interface qui joue une petite harpe d'accord, comme ça. Et on entend des grésillements. Et c'est que, en fait, on a atteint la limite de ce que Web Audio peut faire. Il est super, on était contents, il marche, il est assez réactif, mais plus on va rajouter des sons, plus on demande des choses au navigateur et il va faire des petits craquements comme ça, vous l'entendez le petit craquement. C'est une des choses qu'on peut explorer quand on fabrique nos applications, nos instruments et puis nos applications. Yeah. Et je vais recharger la page pour voir si en vidant un peu les buffers, j'ai moins l'effet. Ouais, désolé. Et ouais, en effet. Et ce que je vous avais pas dit, c'est que le moche, qui est vraiment le plus vieux, enfin, je voulais vraiment lui faire faire le maximum de choses pour le contraindre au maximum. Et ben, il envoie en fait depuis tout à l'heure aussi ses données de capteur inertiel qui gèrent une distorsion sur ma harpe. J'ai aussi des petits accords septièmes. Voilà. Et voilà. Si vous voulez essayer. Je m'étais dit, j'avais pu faire une petite. Parce que. Non, je vais pas le faire. Je peux vous faire une chanson en fait. J'avais pris les accords pour essayer de faire une démo avec la harpe. Vous voulez une chanson? Comme ça finit ma conférence la plus informelle du monde. C'est un mardi vraiment très informel. Oh, il y a une pub. Parce que je connais pas les accords par cœur. Oh, calmos la disto par contre. Hein. Ouais, il s'est verrouillé. Normalement. J'ai dit. Chou. je le dis tout. Je recharge la page. Bah non. Je recharge l'autre page. Ah. Ok. Bon, c'est juste une petite... J'avais des accords, du coup... Je me suis dit que j'allais chanter la chanson de un bout de chanson de Steven Universe que j'aime beaucoup. J'ai honte. Les années de sage. Ah, j'ai perdu mon accord. We're underneath a thousand shining stars. Isn't it nice to find yourself somewhere different? Whoa. Why don't you let yourself just be whoever you are? Ta-da! C'était mon maximum. Est-ce que vous avez des questions? T'as des questions des auditeurs aussi.
Je fais le tour.
Avec ça, il n'y aurait pas une limite avec, avec les batteries parce qu'on peut pas brancher directement au secteur sans qu'il y ait la batterie de brancher une fois qu'elle est devenue.
Ouais carrément.
C'est ça le problème.
Mais bah là tout est branché en secteur. Dans les deux premiers prototypes, j'avais fait un point de soudure qui permettait avec une seule prise d'alimenter les trois téléphones en même temps. Bon, j'avais mal fait. Du coup, ils avaient pas assez de volts, mais ça me permettait de les maintenir en vie. Mais une grande question que je me pose et que j'aimerais bien, bon, serait amélioré, mais c'est de voir si on peut bypass les batteries pour juste les enlever. Et de ce que j'avais commencé à lire, je crois qu'il y a c'est possible de le faire sur certains appareils, peut-être pas tous, mais c'est voilà, question, une vraie bonne question qui mérite further exploration.
Merci.
Merci à toi.
Est-ce que quand tu as un appareil qui fonctionne pour faire du son, comme Web Audio, il doit avoir son affichage allumé ou est-ce qu'il peut... Tu peux faire des économies de batterie en désactivant l'affichage et en faisant juste du son.
Je pense que le navigateur doit être actif, être affiché. Mais par contre, on peut triquer en mettant la luminosité à zéro. Enfin, moi, je ferais ça. Ou en enlevant le câble. Un petit coup de coupe-coupe. plus vénère comme solution, mais...
Moi, j'ai une question. Tu as parlé plusieurs fois de limitation due à la puissance des appareils. Et même s'ils sont vieux, un iPhone 5, ça permettait quand même de faire pas mal de choses, de lancer des applications, etc. Y compris des applications assez complexes. Et du coup, elle vient d'où la limitation de puissance? C'est parce que tu empiles des couches logicielles ou...
Oui, là, pour l'exemple de la musique, plus je lui demande de jouer des sons, de faire des calculs sur les sons, plus je lui demande de faire des calculs, ben, plus on se rapproche d'une limite qui va varier selon les appareils. Celui-là, l'iPhone, il est particulièrement puissant. Je suis assez... contente de voir qui peut faire tout ça. Je sais pas si celui qui est sorti à la même date, le moche, serait capable de faire la même chose. Comme lui, il a une version de JavaScript qui marche seulement sur une vieille version de JavaScript. Je peux pas lui faire du web audio. Mais ouais, ça serait à tester. Mais effectivement, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va en faire. Là, le cas de la musique, c'est vraiment bien pour tester les limites parce que c'est beaucoup de calculs. Mais on peut très bien prendre n'importe quel téléphone et juste l'utiliser comme contrôleur. Une des prochaines, les prochaines explorations, ça peut être aussi de voir comment on peut s'en servir, de convertir en Steam Deck ou des choses comme ça, même pour du VJing ou pour quoi que ce soit. Et puis, bon, aussi de voir plus. Là, je suis partie. Ma démarche ça a été de partir au début, donc en partant du principe qu'ils ont tous un navigateur, ils ont tous un écran. La plupart ont des gyroscopes et accéléromètres. Et plus j'avance dans la frise chronologique de l'évolution technologique des appareils, plus je vais essayer d'implémenter au fur et à mesure dans les librairies aussi différents capteurs. On peut imaginer après les capteurs NFC, on pourrait changer utiliser des détecteurs NFC, des choses comme ça, la caméra, le micro. Enfin, il y avait énormément de choses à faire aussi pour tester non seulement les performances, mais aussi les capacités d'interactivité des différents appareils. Donc oui, j'ai trop. C'est pour ça que j'ai envie de continuer ce travail.
J'ai encore une question. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris la raison pour laquelle tu utilises plusieurs téléphones pour un dispositif. Est-ce que c'est pour une histoire de puissance de calcul ou c'est vraiment parce que tu veux te faire ton interface à toi avec tes modules ou un mélange des deux ?
C'est un peu les deux. Parce que comme là, c'est que du web, ça veut dire que j'ai besoin d'un téléphone qui serve de serveur. Donc il en faut au moins un dans le lot qui soit capable de servir de serveur. Mais je pourrais très bien utiliser mon ordinateur pour générer le serveur et un seul téléphone pour faire une interface qui va communiquer avec autre chose. Là, c'est juste histoire de voir si on peut faire un système indépendant, un système fermé avec cette idée-là.
Moi, j'ai d'autres questions.
Ah ouais.
À part la musique, tu as quoi comme perspective d'application en tête ?
Eh bien, moi, j'aimerais bien... Voilà, déjà, la musique, j'aime bien. Mais j'aimerais bien voir si ça peut se connecter avec mon projet de thèse aussi, où j'avais eu l'idée d'un outil qui permette de documenter des activités dans les ateliers de fabrication. Les Fab Labs. Et je pense que c'est quelque chose qui s'apprêterait bien d'avoir une interface, des interfaces de smartphones récupérés comme ça, qui permettent de prendre des photos rapidement, des choses comme ça, qui soient connectées en un réseau local à l'échelle de l'atelier, et qui permettent comme ça de réemployer des téléphones, pas pour de la musique. Ouais, c'est mon idée comme ça. Et après, en fait, plus ça va aller. L'avantage de la musique aussi, c'est que. C'est pas grave si ça marche pas bien. Il n'y a pas de gens qui meurent, quoi. mais plus je vais avancer dans ce travail, plus je vais essayer de l'exposer à des situations où la robustesse est importante, où il faut pas que ça marche pas, quoi. Et ça serait très intéressant aussi à déployer pour des systèmes de capture divers, pour équiper des choses. Voilà, j'ai pas dans un contexte où c'est pas grave si un truc se fait voler ou.
Est-ce que tu peux mettre sur des effets sur la voix ?
Là, présentement, non.
Mais tu pourrais ?
Ouais.
Ok.
Soon.
Oui, c'est vrai que tu n'as pas parlé des caméras puis des micros, en fait, parce que je sais plus, quand on regarde effectivement les maps en fait, des derniers iPhones, en fait, il y a des micros dans tous les sens. Et donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qui est arrivé graduellement, c'est-à-dire que de génération en génération, une implémentation un peu plus forcenée, quoi. Justement, t'en es où toi, enfin, justement, de cette exploration de cet écosystème-là, parmi les capteurs ?
Je l'ai pas encore fait, mais effectivement, il me semble que tous les téléphones sont dotés d'un micro. C'est leur point commun. Puisqu'ils peuvent téléphoner. Et la plupart, même tous ceux que, en tout cas, j'ai eu avaient un appareil photo aussi. Pour le coup, en fait, c'est vraiment l'étape suivante directe. Il y a des systèmes, des librairies, des systèmes web qui permettent de faire du stream. Donc récupérer des streams et donc ça c'est très direct à mettre en place, je pense. Après c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul sur une image, sur un son, est-ce qu'on peut déjà en déduire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul en local sur le navigateur de chacun des appareils. Mais oui, c'est des choses qui existent, qui sont faciles à mettre en place. Après là, à chaque fois que je mets en place quelque chose, je le reteste surtout chez tout le monde, donc c'est à chaque fois un petit travail en plus.
Et quand tu fabriques ça, tu disais que tu avais une démarche qui visait à rendre accessible l'utilisation de ces vieux objets.
Ouais.
Est-ce que tu as un projet de développement d'interface un peu convivial, de mise à disposition? Là, je ne sais pas pourquoi, par exemple, je pensais à un truc qui s'appelle Notebox. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Notebox, c'est une espèce d'interface où tu connectes des blocs entre eux. Tu choisis tes blocs, chaque bloc a une fonction. Tu connectes avec des fils dessinés en entrée et en sortie. Okay, ouais. Et puis, ça permet de programmer sans taper de ligne de code, par exemple. Et est-ce que, pour l'avancée du projet, tu t'as des envies de simplification d'accès, quoi?
Mais complètement. En fait, le fait que ce soit basé sur du web, moi, je fais vraiment un socle qui va gérer tous les trucs compliqués. Comme ça, générer un réseau, lancer un serveur WebSocket, voir afficher une page, récupérer une donnée de capteur selon si c'est compatible S5 ou S6 ou pas. Ça, c'est vraiment le truc, les choses compliquées, je les mets dans ma boîte et tout va fonctionner. Et à partir de là, ben, quelle que soit l'application que tu vas vouloir mettre dessus, ton cas particulier à toi, ben, tu vas pouvoir utiliser telle ou telle librairie qui sera compatible avec ton sous-lot de téléphone obsolète que tu vas vouloir utiliser. C'est un peu ça l'idée, c'est vraiment de faire un truc qui marche pour tout le monde, qui gère un système de communication, qui génère des serveurs. Et après, moi, si je choisis de faire une application de musique, je vais rajouter un truc application et je vais l'exécuter sur un des téléphones, là, en l'occurrence, l'iPhone. Et je vais essayer de voir, en fonction des téléphones que j'ai, lequel va être en mesure de faire marcher ça ou ça moins bien. Et pour ce qui est des interfaces, de la même manière, on peut très bien faire des surcouches de ce que tu veux. C'est du HTML, CSS. Il suffit d'ajouter un système de développement, de code nodal qui te permet de générer des interfaces et qui les retranscrit derrière en HTML, CSS. Ça devrait marcher de la même manière, sans problème. Il y aurait peut-être des petits points de soudure à faire par-ci par-là. Mais ouais. A priori, théoriquement, ça fonctionne.
Est-ce que tu arrives à reconnaître les... Enfin, imaginons que tu utilises d'autres, un téléphone, enfin plein de téléphones. Est-ce que tu arriverais à reconnaître, disons, la marque ou l'OS en écoutant le téléphone par rapport à ce que tu lui fais subir, disons, ou que tu lui envoies, quoi?
Identifier le téléphone en fonction de comment il exécute le logiciel. Waouh, hardcore. Mais j'aime beaucoup. Oh, mais attends, ce serait pas le son de... C'est excellent, j'aime bien.
Du coup, tu as dit que tu travaillais vraiment principalement sur les téléphones. Mais vu que la limite maintenant elle est devenue, enfin la frontière entre les deux est devenue assez tenue, enfin même fine, est-ce que tu as prévu de travailler aussi sur les tablettes par exemple?
Ah oui, same. Oui, je dis smartphone, mais en fait il faut dire smartphone et tablette. C'est les mêmes OS, c'est la même chose. Et après, par extension, c'est une bonne question parce que dès lors qu'on pourrait même rajouter dans le lot toute chose qui est capable de se connecter à un réseau, un microcontrôleur, n'importe quoi, un Arduino, un Raspberry Pi, n'importe quoi, ou même de l'IoT, ça peut être intégré à l'écosystème. Ouais.
Hello, déjà. Hello. Merci pour cette super conférence. Je suis pas sûre que tu aies la réponse, mais je me demande combien approximativement il faudrait de téléphones de récup pour recréer un cluster de calcul d'un super calculateur qui lance des grosses simulations physiques et des modèles mathématiques et des trucs comme ça.
Si ça 40 serait possible 767.
Super, merci.
Non, mais c'est une bonne question parce que y a la référence dans l'article, mais il y a justement un papier qui a mesuré très précisément les compétences. Les performances des téléphones dans le cadre de mise en place dans un serveur et d'une banque de serveurs, on dit, je sais plus le mot que tu as dit, ça.
Les supercalculateurs.
C'est pas des supercalculateurs, mais c'est en tout cas des data centers.
Okay. Voilà. Merci.
Alors, c'est une question IRC. Alors,
de qui?
De HDX. Alors HDX, il pose la question, Et est-ce que ça serait possible de faire transiter des messages audio de téléphone en téléphone en point à point via Wi-Fi sur de la moyenne distance?
Jamais fait, mais je vois pas pourquoi ça serait pas possible.
Voilà, t'as la réponse au HDX.
En fait, si on veut faire passer du son et le refaire passer, en gros, on va enregistrer un média dans le navigateur, on va le stocker sous un format buffer, et ce format buffer, on peut le renvoyer ensuite. Alors peut-être pas en stream, si, ça devrait pouvoir se faire aussi.
Tiens, d'ailleurs, petite question, la distance maximum entre deux devices, moyenne entre les...
Aucune idée. Enfin, là, ils sont juste à côté et ça marche bien. Après, oui, ça va dépendre. Là, celui qui génère le réseau Wi-Fi, il est assez performant. Et en fait, tout va dépendre de l'antenne Wi-Fi qui est à l'intérieur des téléphones. Et plus celle-ci est puissante, plus le Wi-Fi, le réseau ira loin.
Juste petite précision de HDX qui dit « Bref, tu refais un téléphone en stream ou pas ?» Et tu utilises le Wi-Fi local à la place d'une antenne 2-3G.
J'ai pas compris. Ouais. Ah oui, oui. Bah comme la radio DAB, là. C'est une radio sans radio. Enfin, si, mais pas la même radio. Ah, ok.
Alors, il y a 12-15 ans environ, on parlait beaucoup dans les articles de recherche US et MIT de pervasive computing et de ubiquitous computing. Et ça m'a fait penser à l'INRIA. À cette époque-là, ils avaient sorti un truc. Un outillage de découvrabilité de verbes exécutables sur des composants sur le réseau. Ils avaient trouvé un terme un peu stupide, c'est peut-être un acrostiche, ils l'avaient appelé leur outillage homicide. Bon, bref.
Ils sont très forts en acronyme.
C'est passé à ma question, c'est est-ce que tu as suivi le sujet, tout ce qui est ubiquitous, supervasive, ou alors est-ce que c'est complètement out, c'est plus la vague et maintenant on fait que de l'IA, ou est-ce qu'il y a encore des gens qui se posent des questions sur l'informatique ou les... systèmes distribués qui se découvrent dynamiquement et qui font des trucs dynamiquement.
Oui, c'est pas exactement mon film, mais il y a encore des conférences qui s'intéressent au pervasive computing. Alors, pour les définitions pervasive computing, c'est ubiquitous, c'est un peu la même chose, je pense. C'est comment on va pouvoir intégrer des éléments interactifs dans l'environnement. L'informatique est autour de nous, elle est plus incarnée par un objet qu'on va manipuler, dont c'est la finalité, c'est qu'elle a disparu dans l'environnement. Et oui, effectivement, je pense que les recherches continuent là-dessus. Je pense que c'est pas opposé à l'IA non plus. Ah oui, en termes de trend, j'avoue, j'ai pas suivi assez. Je peux pas répondre, mais je peux faire un petit check sur ACM.
Alors, il y a une autre question, cette fois c'est Pi79, qui nous dit « Pourrais-tu parler un peu plus du retour d'expérience des artistes avec lesquels tu as collaboré ? Merci, XOXO, Alex. »
Alors là, c'est une affaire à suivre, parce que pour l'instant, on n'a pas... C'est vraiment le projet, c'est de passer de cette idée de prototype que ça a inspiré à essayer de le faire et de le construire avec eux. C'est vraiment future work, je l'espère.
Si j'ai bien compris, il y a une URL à laquelle on peut se connecter pour transformer son téléphone en instrument, quoi.
C'est à peu près ça. En fait, l'URL, elle va être, elle est de la forme d'une adresse IP et de la page que je veux charger. En gros, lui là, qui génère le serveur avec Node.js, il génère un serveur HTTP qui va distribuer des pages à des URL données. Donc lui, il génère les URL et tous les téléphones qui sont connectés au même réseau peuvent charger la page qui correspond à l'URL.
Et du coup, est-ce qu'on par exemple, là, si on est, on est quoi, une vingtaine, est-ce qu'on peut chacun se connecter au réseau et puis faire une page et voir ce que ça donne
Ouais. Qui c'est qui veut essayer? Alors, le réseau s'appelle Zombitron, le mot de passe, c'est Zombitron. Et par contre, il va falloir recopier l'URL qui ressemble à quelque chose comme 192.168.
Attends.
Alors, non, tu commences par HTTPS, très important. Là, vous voulez me le faire crasher si vous le faites tous en même temps. Moi, j'ai que trois interfaces.
Alors, HTTPS, Zombitron.
Zombitron, pareil. Tout petit. Ah, le pauvre. Là, tout le monde est connecté à lui, là.
Z-O-M-B-I-T-R-O-N. Non, juste Z-O-M-B... Après, c'est...
Et donc, l'adresse... https://https://192.168.143.132.2.3000. Et je vais vous montrer l'interface de l'iPhone qui joue de la musique. Slash iPhone. Original. Donc là, si vous n'avez pas fait de typo, normalement, il y a un petit séquenceur qui s'affiche.
Yeah.
Et moi, ce que je vais faire de mon côté... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire la même adresse, mais au lieu de taper iPhone à la fin, tape moche, et il aura l'interface de contrôle des instruments? Trop compliqué.
Comment, moche?
M comme moche. C'est vous qui avez demandé, hein. Qui c'est qui l'a? Oh yes. Donc on a la musique. Et là, dès que l'autre interface est chargée, en fait, il va pouvoir lancer la boucle. Toi, tu vas pouvoir faire ta compo. Et quand il va... Oh, yes, on en a un deuxième. Bah, attends, tu peux mettre le moche, toi, à la place? À la place
c'est
de iPhone.
C'est qui est sur le moche.
Ah, ok.
Moi, j'ai du mal à me connecter.
J'ai l'impression d'être dans ma tête. Non, mais c'est lui, le moche. Non, il est où, le moche? Il est où, le moche?
.132.2.3000/moche.
Ouais. Ah voilà, super. Bah, tu peux lancer la boucle avec le petit bouton en haut à droite. Et tu peux mettre les curseurs au milieu. Là, le volume, il est à zéro. Et là, il y a quelqu'un qui devrait jouer de la musique si vous avez mis du... Ah bah c'est moi. Voilà. Voilà, là c'était le mien qui jouait. Ouais, parce que vous êtes deux dessus et du coup ils s'envoient les messages contradictoires. Il y en a qui disent non mais moi c'est le premier beat qui est activé. Ah oh, non, moi c'est le deuxième. Ah mais quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Donc voilà, démonstration que ça fonctionne. Oh, parce que t'as pas réussi à rentrer l'URL. Le mot de passe. Ah bah parce que, et ben regarde là, autre démonstration, tu vas sur, au lieu de taper moche ou iPhone, à la fin tu tapes certificate, et là ça va te proposer de télécharger les certificats. Et ensuite tu pourras les installer. Ou pas obligatoirement peut-être sur ton téléphone.
Mais juste pour préciser en fait, c'est donc en fait, il y a des interfaces où le son est en local, comme la boîte à rythme. Et il y a des interfaces qui sont des contrôleurs qui contrôlent le serveur, ou c'est le serveur qui fait qui sort le son en fait, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Bah, en gros, regarde. Là, je suis sortie de l'affichage. Là, c'est tout ce qui se passe. Là, je suis en train de montrer le téléphone qui exécute le serveur. Et là, bah, c'est tout ce que vous envoyez depuis tout à l'heure. Bah, en fait, ça passe ici.
Il y a du trafic, ouais.
Ouais. Et donc, eux, ils envoient ça à l'autre, enfin à tout le monde. Et il y en a qui écoutent certaines choses et d'autres choses. Attends. Bah ouais, c'est un orchestre. Complètement. Pardon. C'est...
Ouais, avant de passer au mode informel, je voudrais dire un petit mot. Quand je suis arrivé à la Générale en 2011, une des premières affiches qu'on m'a demandé de faire, c'était pour un truc qui s'appelait Vieux Média. Sur cette affiche qui s'appelait Vieux Média, on m'avait demandé d'écrire un truc du style vinyle, cassette, du vieux. Et téléphone portable, ordinateur, du futur vieux. Donc aujourd'hui les ateliers vieux médias qui se poursuivent à la Générale sont arrivés dans l'ère du futur vieux. Et je pense que c'est le bon jour pour dire que la flamme est encore vivace et qu'on est content qu'elle se prolonge.